France Inter.
La voix est libre.
Il est 14h05, tout de suite, CO2, mon amour, avec Denis Chessou. Bonjour.
Bonjour, cher Dominique Delarroix. Alors nous, si vous voulez, au-delà de l'opération 24h pour la fenêtre, ce qui est très bien d'éteindre effectivement tout ceci, mais ça ne résout pas exactement les problèmes de fond, mais si ça sensibilise, eh bien, tant mieux, voilà. Nous, c'est toute l'année, hein, c'est toute l'année. Voilà. On vient d'avoir un rapport du GIEC là, qui est assez... qui disent, bah, écoutez, si on ne fait rien pour le réchauffement climatique, eh bien, ça devient carrément criminel, hein, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est comme ça. On vous retrouve pour les informations de 15h.
Ah, ça, ce sont les comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Tu vois le jaune, là? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bon, mais enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite et qui va fêter le printemps sous toutes ses formes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui avec nos différents naturalistes. À la technique, il y a Alexandre Chenet, Maxime Ingrand et assisté de Virginie Leduo. Cette semaine, c'est Hélène Biziot, baptême du feu, donc qui réalise son émission sous la houlette inspirée de Marie-Christine Thomas. Et je n'oublierai pas Albert Houck du Maine. Allez, une petite humeur. Disons-le sans embâge, notre monde moderne nous ouvre chaque jour davantage un éventail de possibilités sans cesse renouvelées. Ainsi, on a cru pendant longtemps que les trafics qui faisaient la fortune des mafias se limitaient à des substances assez difficiles à se procurer. Eh bien, désormais, il nous faut réviser ce jugement quelque peu hâtif, car un trafic, cela peut parfaitement s'organiser entre deux pays n'ayant pas la même culture en matière de gestion des stocks. C'est en tout cas ce que nous apprend cette semaine la Confédération paysanne qui, lors d'une conférence de presse, a présenté des pesticides interdits en France, mais achetés sans problème aucun en Espagne. Même pas sous le manteau et encore moins dissimulés sous une muleta. On s'étonnera moins dans ces conditions de constater que jusqu'à 10% des fruits et des légumes cultivés en France peuvent contenir des résidus de produits interdits sur le marché européen, avec des molécules bien plombantes pour la santé. Mais que voulez-vous, en France, hein, à force de lire Blanche-Neige et la sorcière avec sa pomme farcie de saloperie, les poisons, on aime ça, oui. On ne peut même plus s'en passer depuis que l'agro-industrie nous y a rendu dépendants. Et même s'il peut y avoir, vous savez, un petit goût d'interdit dans le produit, ça le rend presque encore meilleur. Oui, on est comme ça. Comme en plus ce risque de se faire attraper par les gabelous et la marée chaussée est à peu près nul, pourquoi s'en priver? Ces trafics sont en effet peu sanctionnés. C'est ainsi qu'en 2013, un agriculteur convaincu d'avoir participé à ce type d'importation illégale n'a écopé que d'une amende de 2000 euros, quand on sait que le code rural prévoit jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ça laisse, comment dire, une belle marge de progression. Alors une fois encore, un peu de cohérence dans le combat, paraît-il, mené dans l'Hexagone contre le tout chimique serait apprécié. Une fois de plus dans cette émission, il ne s'agit nullement de diaboliser la chimie, car sans elle, beaucoup d'entre nous ne seraient pas en vie et n'auraient pas du tout le même confort. On est bien d'accord, mais comment justifier un discours se voulant volontariste en matière de réduction de l'usage de pesticides si par ailleurs on peut en toute impunité s'approvisionner en produits illicites en franchissant la première frontière venue? Aussi, au moins vis-à-vis de toutes ces charmantes molécules frauduleusement importées d'Espagne, le gouvernement serait-il bien inspiré de prendre le taureau par les cornes? Donc, je vous le disais, nous allons tourner, valser avec le printemps du nord au sud. On va prendre le pouls du printemps avec nos correspondants en nature. Et puis, alors, on va commencer tout de suite avec vous, Frédéric Lizac. Bonjour Frédéric, vous êtes dans le sud-ouest et vous êtes aussi l'éditeur des éditions Plume de Carotte. Vous êtes un naturaliste. Et donc, on va vous suivre dans un voyage printanier qui nous mène de Toulouse jusqu'aux Corbières dans l'Aude.
Bonjour Denis. Oui, il y a un printemps qui peut paraître un peu surprenant. Parce que je suis parti hier de Toulouse, et alors là, je peux vous dire que dans les jardins, sur les bas-côtés, etc., c'est vraiment... L'offensive est là, hein, y a pas de problème. J'ai même vu hier les premiers coquelicots. c'est un peu classique. Ils sont peut-être un petit peu en avance cette année. Mais enfin, c'était sur un talus. Je les ai vus assez vite, je dois vous dire, parce que j'étais en voiture et c'était sur un bas-côté de la rocade du périphérique toulousain. Mais c'est pas étonnant parce que c'est des endroits qui sont souvent très nettoyés, qui sont souvent un petit peu retournés pour l'aménagement. Et les graines de coquelicots qui peuvent être enfouies pendant des années dans le sol adorent être remises à la lumière. Et comme c'est un talus qui était bien orienté plein sud, ben voilà, les toutes premières taches rouges de couleur dans Toulouse, c'était hier. Dans Toulouse, vraiment, il y a les cerisiers aussi qui sont éclatants. Dans mon jardin, il se trouve que j'ai la chance d'avoir deux pieds de vigne. Il y a les premières feuilles qui sont là depuis une semaine. Oui. Donc je me suis dit, c'est bon, allons dans les Corbières, allons vers le sud-est et vers le pays méditerranéen, et ça va être en explosion. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Je dirais que ça a une bonne semaine de retard. Mmh. Bah, les vignes, notamment, évidemment, dans les Corbières, c'est un bon signe. Là, on commence à voir les premiers bourgeons qui, à mon avis, dans 3-4 jours, ils vont s'ouvrir. Mais c'est pas encore ça. On est encore dans vous savez, la première offensive de printemps, celle qui a commencé il y a un mois, c'est-à-dire avec plutôt les tons de blanc, les roquettes dans les champs, les fleurs d'amandier, évidemment, mais ça, c'est presque fini. Mais vous savez, cette deuxième offensive qui est celle où vraiment ça commence à fleurir de partout, où les herbes, les jeunes herbes poussent presque à vue d'œil, eh bien là, on n'y est pas tout à fait. En fait, l'explication, elle est connue quand même par les naturalistes depuis pas mal d'années, c'est que les villes sont des bulles de chaleur. En fait, une ville, évidemment, de par sa concentration entre les bâtiments qui peuvent capter de la chaleur en été et par la journée et la restituer la nuit, avec évidemment les chauffages, avec les automobiles, etc., etc., ça crée des bulles de chaleur qui peuvent faire que vous pouvez avoir jusqu'à 2 degrés de plus que par rapport aux proches banlieues et à la campagne autour. Et ces 2 degrés de plus, ben, dans une période de printemps où les réveils des floraisons et des feuillages se joue à quelques jours, ça peut suffire pour créer un décalage d'une semaine.
Alors qu'est-ce que vous avez aussi maintenant sous les yeux, Frédéric Lizac, puisque vous êtes dans les Corbières, faites-nous rêver un petit peu, je ne sais pas où vous êtes exactement.
On est à une vingtaine de kilomètres de Carcassonne, c'est le début effectivement des Corbières un petit peu montagneuses, c'est ce paysage que moi j'adore parce que depuis presque 2000 ans, il est à mi-chemin entre la nature très sauvage et les activités humaines, puisque vous avez toutes les plaines qui sont avec les vignes, et puis tous les coteaux plus secs, calcaires, qui sont sauvages, qui, il y a un siècle, étaient très habités, entre guillemets, de moutons, mais les moutons ont disparu, et vous avez cet équilibre extraordinaire où, en permanence, vous passez de coins très cultivés, avec la vigne, à des coins très sauvages de garrigues. Alors, la garrigue, elle n'est pas encore vraiment réveillée. Il faut vraiment aller chercher. Alors, c'est vrai que il y a déjà une semaine, là, ça a été une belle petite surprise. J'ai vu les premières offrices abeilles sur un talus. Vous savez, ces petites orchidées dont les fleurs imitent l'abdomen de certaines abeilles et qui, comme ça, attirent les mâles pour la pollinisation. Là, pareil, sur un talus bien ensoleillé, normalement, c'est un petit peu plus tardif, c'est pas avant la mi-avril. Ben là, il y avait les précurseuses que j'ai vues, et ça, c'est des toutes petites fleurs, mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles, c'est vraiment un petit délice. Et puis, effectivement, sur certains plateaux calcaires un peu plus haut, là, vous avez, mais c'est normal, c'est le mois de mars, c'est le leur, vous avez les tapis de minuscules jonquilles et d'iris nains également, qui peuvent faire des tapis sur des dizaines de mètres carrés. Alors ça, c'est somptueux. Et effectivement, dans 15 jours, ça aura disparu. C'est vraiment des fleurs qui sortent très tôt dans la saison. Et là, elles sont bien là. Le printemps est bien là dans les Corbières pour elles.
Merci à vous, Frédéric Lizac. Et puis, je peux vous renvoyer un ouvrage aux éditions Plume de Carotte qui s'appelle « Fleurs à parfum » qui va sortir, qui est déjà sorti. Après Mélingo, eh bien, nous allons aller en Alsace.
Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías. Van los lincheras chupando como el caracol. La casa cuesta hacia la sal. Van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor. Y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías, van los lincheras y al llegar se oye un peón e entonar esta canción.
Yeah. Linchera soy,
corro el mundo y no sé a dónde voy.
Linchera.
choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Melango, la canción de l'Ingiera, autrement dit du vagabond, un peu comme à l'image des plantes, vous savez, qu'on appelle des vagabondes, qui se disséminent un petit peu partout, ou parfois qui posent des problèmes. Mais c'est la vie, une espèce de mondialisation comme ça des plantes. Et nous, nous faisons notre ronde de printemps, vous l'avez très bien compris. Et donc après les Corbières, eh bien nous allons partir en Haute-Maurienne, dans le pays d'Auge. Nous allons partir aussi en Loire-Atlantique tout à l'heure. Je vais vous faire un peu rêver, j'espère, avec un joli voyage sur une barque de Loire-Atlantique. Mais auparavant, allons sur une des épaules de la France. Nous allons à l'Est. Après, vous avez l'Allemagne. Donc, on va s'arrêter en Alsace avec vous, Stéphane Giraud. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur d'Alsace Nature.
Bonjour, Denis.
Vous êtes à quel endroit en ce moment? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux?
Eh bien, écoute, je suis juste à côté de Strasbourg, dans le massif de la Robertsau, qui est destiné à devenir une future réserve naturelle.
Oui, alors ça ressemble à quoi, donc, cette Robertsau?
C'est une forêt rhénane, avec des lianes. C'est notre jungle à nous, en Alsace, oui. Avec des chênes, du saule, des trous d'eau, avec plein de moustiques.
Alors, ce printemps, racontez-nous, Stéphane Giraud, donc, ça y est, il est bien là?
Eh ben cette année, il est là et on a même des températures qui sont même un peu au-delà de ce qu'on devrait avoir à cette saison avec le retour de toutes nos petites espèces traditionnelles. On commence à voir les papillons voler, les insectes. Nos premières hirondelles sont là depuis quelques temps. Les premiers courlis cendrés sont à entendre. Les petits blaireaux vont pas tarder à sortir le nez de leur terrier. Pour l'instant, ils doivent être encore au fin fond du terrier, mais on va pas tarder à les voir gambader devant les terriers.
Ouais, ils font pas plaisir à tout le monde d'ailleurs, les blaireaux. Hein. C'est comme ça, on le sait. Hein, que...
Ah, mais chez nous, dans le Bas-Rhin, en tout cas, c'est une espèce qui, et c'est unique en France, n'est pas chassable. Et on le revendique tout à fait, puisque c'est quand même une espèce qui rend plus de services qu'elle ne pose de problèmes.
Et oui, et alors tenez, il y a une autre espèce qui est très emblématique, on le sait, qui ne se porte pas forcément très très bien, c'est le fameux grand hamster. Alors je ne sais pas si le printemps va lui être favorable. Où en est-on? Puisque donc ses ennemis, c'est à la fois l'urbanisation, c'est aussi les grandes cultures, etc. Donc où en est-on avec ce grand hamster, qui pose aussi des problèmes européens, hein?
Bah, il pose beaucoup de problèmes à l'État français, oui. Mais pour l'instant, lui, par contre, va encore prendre quelques semaines avant de se réveiller tranquillement. Il va sortir début avril, normalement, de son terrier. Malheureusement, la situation de conservation ne fait que se dégrader lentement depuis pas mal d'années. Et la réforme de la PAC, qui nous promettait un verdissement, n'étant pas forcément au rendez-vous, on a des craintes sérieuses de penser qu'on n'est pas prêt encore de revoir un hamster sauvage et libre en Alsace.
Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Juste en trois phrases, que l'on se remette bien en mémoire, donc le problème que subit le grand hamster.
Alors les problèmes, c'est l'omniprésence d'une culture majoritaire chez nous qui est le maïs en pleine d'Alsace et qui est vraiment un désert, un béton vert. C'est les infrastructures et les développements de l'urbanisation. Et puis là, depuis la fin de l'année dernière, on vient même de nous relancer notre bon vieux grand contournement ouest de Strasbourg qui va finir de passer dans les dernières zones à hamster, ce qui est quand même une hérésie en 2014 de faire encore ce genre de choses.
D'accord, sauf évidemment à passer son permis de conduire, ce qui n'est pas forcément dans la vocation première du grand hamster. Si on regarde dans le ciel quand même, évidemment, on va se dire Alsace. Ah bah alors Alsace, cigogne, voilà, on va faire très simple dans le genre carte postale, qui d'ailleurs peut-être réside aussi un peu chez vous, parce que se sentent bien, alors je sais pas, là, on a des migratrices qui reviennent, des sédentaires.
On a les deux, effectivement, on a des sédentaires toute l'année, et puis on a les migratrices qui reviennent, mais c'est vrai que c'est l'image d'Épinal de l'Alsace que la cigogne. Non, on a une espèce qui était en voie d'extinction, qui aujourd'hui se porte nettement mieux. Oui. Et ce qui est plutôt satisfaisant, c'est qu'on va petit à petit vers effectivement le fait de ne plus maintenir d'animaux en captivité, de ne plus avoir, j'ai envie de dire, à se préoccuper de la cigogne pour qu'elle se débrouille toute seule, à condition qu'on lui recrée ses milieux, c'est-à-dire qu'on maintienne les rares prairies qui restent en Alsace et surtout qu'on en recrée là où elles ont disparu, dans le Ried notamment. Moi, ce que je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est que malgré tout, dans tout ce paysage-là, de plus en plus de gens se déclarent quand même être sensibles à ce qui les entoure. Et ça, c'est quand même notre grande victoire collective depuis pas mal d'années.
Stéphane Giraud, en tant que directeur d'Alsace Nature, quelles sont les difficultés d'une association quand même extrêmement reconnue localement comme la vôtre ?
Bah, les difficultés sont toutes les mêmes. C'est qu'aujourd'hui, on est ultra sollicité pour être présent dans plein de dossiers et on devrait être présent dans plein de dossiers, mais on a des moyens qui restent extrêmement limités. Le budget du ministère de l'écologie étant ce qu'il est et en chute libre ne nous aide pas beaucoup. Et puis la reconnaissance de l'investissement des citoyens au travers des associations me paraît, moi, être largement en deçà de ce qu'il devrait être dans une société comme la nôtre, parce que finalement, s'engager en tant que citoyen dans la vie de son pays, de sa ville, de sa commune. Est-ce que c'est pas le meilleur exemple de démocratie qu'on puisse connaître? Il nous paraît que oui, mais en tout cas celui-là n'est pas reconnu et aujourd'hui on a un manque cruel de moyens. Et puis le dernier qui moi me paraît être compliqué, c'est qu'effectivement aujourd'hui les jeunes ont énormément d'occupations et n'ont plus forcément le temps de s'engager et on a besoin de jeunes aussi qui viennent apporter un nouveau souffle, un nouveau sang, des nouvelles idées dans nos structures associatives. C'est aussi l'objectif, c'est de débattre de tout ça au sein de nos structures.
Allez, bon courage et merci à vous Stéphane Giraud de nous avoir fait vivre ce début de printemps donc chez vous en Alsace.
Comme neige au soleil, neige au soleil.
Petite virgule habilement choisie par Hélène Bisio, notre réalisatrice. Et oui, comme neige au soleil, pourquoi? Parce que je vais vous emmener cette fois-ci dans la montagne, la montagne assez haute. Vous imaginez, donc nous allons partir en Haute-Maurienne, vous quittez Modane. Chemin qu'a parcouru Hannibal avec ses éléphants, je ne vous le recommande pas spécialement, ça ne lui a pas porté complètement bonheur. Vous poursuivez, vous allez vers le col de l'Iseran, autrement dit, vous allez vers le ciel, vous avez l'Arc qui prend sa source pas loin, le parc de la Vanoise est à côté, et on va s'arrêter à Lens-le-Villard pour retrouver Yves Berneron. Bonjour à vous Yves, vous êtes naturaliste, conteur, ancien forestier et goûteur de saison.
Bonjour Denis.
Alors Yves, vous êtes déjà intervenu un certain nombre de fois dans cette émission, mais alors racontez-nous l'arrivée du printemps. Où en est-on là, cette fin mars, début avril? J'imagine qu'il y a encore pas mal de neige.
Et il y a encore beaucoup de neige Denis, bien sûr. Et c'est un balbutiement du printemps, c'est une hésitation du printemps pour l'instant, mais il y a quand même plein de signes qui nous disent qu'il arrive tout doucement.
Alors comment ça se passe ces signes-là? Quels sont-ils?
Mais il y a plein de signes d'abord dans les arbres qui commencent à puiser dans la terre, qui dégèlent tout doucement la sève dont ils ont besoin. Je vois par exemple les bouleaux, ces magnifiques bouleaux aux écorces blanches, là, qui ont eu quelques branches cassées par les tempêtes de l'hiver, et là, au bout de ces branches cassées, déjà s'écoule la sève. Et c'est tout à fait merveilleux. C'est celle que l'on recueille d'ailleurs, parce que c'est excellent à boire pour la santé au printemps. Il y a plein d'autres choses aussi avec les arbres. Il y a les mélèzes. Vous savez qu'on est dans une région de mélèzes. Oui. Et ces mélèzes qui sont ternis par l'hiver commencent à s'éclairer. Il y a une espèce de lumière qui vient de l'intérieur de l'arbre et qui s'épanouit vers les petites branches fines, un petit peu comme si elles étaient revêtues d'or. C'est assez extraordinaire. Et ça, c'est un des grands signes du printemps.
Oui.
Il y a les saules qui sont couverts de bourgeons, et ça déjà depuis un bon moment, parce que le saule a une végétation tellement longue qu'il est capable de déjà puiser dans le sol très profond dès la fin du mois de janvier, début du mois de février, mais ils sont couverts de chatons, une vraie carapace de chatons, et c'est tout à fait merveilleux. Voilà donc, à travers les arbres, des choses qui disent que le printemps est bien là, que l'hiver le veuille ou pas.
Et alors la vie animale, comment se traduit-elle au printemps? Qu'est-ce que l'on voit déjà?
Alors dans la vie animale, il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Le premier à avoir s'être manifesté vraiment, disant que l'hiver prenait doucement sa fin, c'est le grand-duc. Ce merveilleux grand-duc qui a un chant très particulier, une espèce de ronflement sonore qu'il lance dans les gorges de l'Arc, tout près de chez moi, là, le soir, dès que le soir arrive. Et le grand-duc a commencé ce chant dès le 15 février déjà. Donc c'était bien avant que les prémices véritables du printemps. Il y a bien sûr les pics noirs, ce grand pic noir sauvage du fond des forêts qui tambourine sur les branches sèches pour avertir les femelles que ça va être le moment de commencer à revivre. Il y a le pépiment des mésanges qui s'en vont déjà, cherchant d'un bourgeon à l'autre s'il n'y a pas quelque chose à voir. Donc il y a déjà chez les oiseaux, j'ai vu il y a quelques jours un couple de pigeons qui étaient déjà revenus. Ils étaient peut-être un petit peu trompés d'horaire, mais ils étaient tous serrés l'un contre l'autre sur une branche de mélèze balayée par le vent, mais dès que le vent s'est arrêté, ils ont commencé leur recoulement d'amour du printemps. C'est merveilleux. Voilà.
Et les chamois aussi, ils gagneront.
Les chamois aussi. Oui, chez les chamois aussi, déjà, c'est le printemps. Parce que vous savez qu'ils vivent très haut en altitude, même au cœur de l'hiver, parce que bien souvent, ils trouvent davantage à manger en haute altitude où les arêtes sont balayées par les vents, laissant apparaître un peu d'herbe sèche qui leur permet de survivre. Et puis là, maintenant, ils commencent leur lente descente vers la vallée, parce que dans le fond de la vallée, sur les versants sud, déneigés, tout doucement, l'herbe commence à arriver, très timidement, mais ils le sentent très bien, donc ils ont entamé leur lente descente vers la vallée. Et puis il y a aussi cette attitude particulière des femelles, des chèvres de chamois, déjà bien arrondies par leur maternité, qui vont chercher déjà quelques coins de ci, de là, très tranquilles pour mettre bas dans un mois. Voilà, donc chez eux, déjà, ce sont des signes forts du printemps, bien sûr.
Et alors, chez vous, Yves Bernoron, vous qui êtes un homme de la nature, qui est originaire, on va dire, du monde de la forêt au départ, et puis bien sûr naturaliste, ornithologue, etc. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Là, vous nous faites un très très beau tableau avec différentes petites pastilles, mais vous, comment ça se traduit?
Moi, ce que j'aime bien, c'est cette lutte extraordinaire qui s'engage entre le printemps et l'hiver. C'est très fort parce que il y a encore, on va avoir encore un matin 30-40 cm de neige fraîche, c'est pas impossible. Il y a ces vents de neige, vous savez, qui passent le col du Mont Cenis ou le vent de Lombarde, là, qui vont balayer les sommets des forêts encore maintenant. Mais l'hiver se bat, il s'accroche. Et chaque nuit, il reprend un petit peu ce que le soleil lui avait chapardé la veille. Et on va avoir des constellations de glace d'ici, de partout, pour que l'hiver marque à nouveau sa présence là où le soleil avait fait fondre la neige. Et c'est cette lutte qui est tout à fait prenante et qui attire l'attention, qui fait que c'est un spectacle extraordinaire.
Et
c'est
ça le printemps. Pour voir les fleurs, là ce sera évidemment plus tard, ce sera du côté du mois de mai véritablement.
Ah, elle commence. Quelques-unes déjà, vous savez, la petite anémone hépatique qui ne craint rien, toute petite, mais qui a déjà ses pétales blancs ou violets, ce cœur vert merveilleux apparaît de-ci, de-là, il y a les tussilages, il y a surtout la bucerole, c'est cette espèce de fleur en buisson qui court sur les versants sud, là, et qui fait des petites clochettes blanches d'une très grande délicatesse, qui déjà rosissent, on dit que c'est le rose de la fécondation. Il y en a déjà quelques fleurs, mais c'est dans quelques temps qu'il y aura les fleurs. Il faut encore attendre un mois pour qu'il y ait vraiment de fleurs, et là, il y aura des ruisselets d'eau partout, et l'eau, justement, est le signe du printemps. Parce qu'en hiver, tout est figé par la glace, le froid, la neige, tout est figé, mais là, au printemps, ça va exploser de ruisselets qui ressemblent à des argenteries de partout, et il y aura un vrai firmament de constellations florales, des astres minuscules, mais qui arrivent à percer la croûte de neige malgré leur fragilité. Il y aura des fleurs de partout, avec une dominante de bleu.
Merci beaucoup Yves Bernoron, on vous retrouve bientôt, on vous souhaite un très beau printemps.
Merci Denis, à vous si je souhaite un très joli printemps. À bientôt Denis.
Laissons passer les Martinets, on va quitter la Haute-Maurienne, on va aller dans un endroit un peu plus bas, on va aller dans le Pays d'Auge, autrement dit un petit coin de Normandie, on dit la Basse Normandie, et on va rejoindre Christiane d'Orléans. Alors Christiane, vous êtes fondatrice de Monviette Nature. Monviette, c'est près de Livarot. Là, tout de suite, ça évoque quelque chose, bien évidemment. Ça évoque à la fois le plaisir et le cholestérol, non loin de Lisieux. Et puis donc, vous allez nous parler aussi de ce printemps, Christiane d'Orléans.
Bonjour, Denis. Ah oui, très important. On sait que le printemps est là, puisque la première hirondelle a été vue au début de la semaine, cette semaine, ouais. Lundi. Voilà, donc ça, on sait. Maintenant, le printemps est là. En fait, c'est pas vrai. Le printemps, il est là depuis... Il est là depuis longtemps, puisque le printemps, on va l'observer surtout autour des mares. Là, je suis sur le bord d'une mare, justement, où on a des sorties et des pontes de tous les amphibiens, déjà depuis la fin du mois de février.
Et puis après, donc, nos chers amphibiens, ils sortiront de cette mare, c'est normal, et puis ce sera plutôt durant l'été. Autour de vous, en ce qui concerne la faune, comment ça réagit actuellement ?
Alors, moi, j'ai rencontré un petit grand-père la semaine dernière et il m'a dit, vous savez, on a vu les papillons jaunes Donc ce sont les citrons pour nous, mais eux ils les appellent les papillons jaunes. Et il me dit, quand on voit les papillons jaunes, c'est le moment de brûler les tas de bois qui sont restés sous les haies pendant tout l'hiver. Vous savez, on coupe le bois pendant tout l'hiver, voilà. Et le bois dont on ne se sert vraiment pas, le bout des branches, qu'on ne peut pas utiliser, ces morceaux-là, on attend, on les laisse en tas. Et c'est seulement quand on aperçoit les papillons jaunes qu'on peut se mettre à les brûler.
Autour de vous, voilà. Racontez-nous un peu quel est le paysage, à quoi ressemble-t-il ?
Alors, moi je suis là en train de marcher le long d'une haie. Le paysage, surtout chez nous, c'est un paysage de bocage qui est sillonné de chemins creux où on peut marcher. On peut aussi y aller à vélo, bien sûr, à cheval.
Et alors, vous êtes quelqu'un qui aimait, bien sûr, ces paysages et vous faites de la lecture de paysages, entre autres choses, avec Mon Viet Nature. Quelle est l'action que vous menez avec cette association ?
Alors, notre association, elle a démarré justement autour de l'histoire des chemins. Il y a 25 ans, on a voulu préserver les chemins de la commune. On a commencé à mener des inventaires de toutes ces haies, mais aussi des prairies, des mares, des bois. Et très rapidement, on a eu envie de comprendre pourquoi le paysage était constitué de cette manière-là, au moment où on le regardait là. Et on a eu envie d'aller interroger déjà les anciens pour voir un petit peu comment, sur un siècle, ça avait évolué.
Un grand merci.
Eh bien, merci à vous aussi.
Et puis, continuez.
Et puis, il faut venir se balader dans les bois, dans les chemins.
Et nous le ferons, bien sûr, Christiane d'Orléans. Et ben, alors, c'est pas très très loin, en plus, tout ça, donc c'est parfait. Nous allons partir dans quelques instants en Loire-Atlantique sur un marais, le marais de Mazerolles. Vous découvrirez ça juste après Florent Marchais.
Dehors, c'est pas la joie, beaucoup trop de chaleur. Des hommes qui aboient le ciel, annoncent la couleur. Il y a des accidents, de la pluie mazoutée. Les enfants sont violents, finis les îles enchantées. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Dehors, y a rien à faire. Ils parlent d'un cyclone. On compte les éclairs, le feu, les chaux, les pylônes. Des sauts sans élastique et des cochons qui s'envolent. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi.
sent une certaine angoisse quand même chez Florent Marchais. Reste avec moi, avec dehors, c'est les ténèbres, les bus qui brûlent, ce qui n'est pas bon du tout pour le CO2, il faut quand même bien le dire. Oui, absolument. Non, c'était donc extrait du dernier album de Florent Marchais, Bambi Galaxy, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Et on va revenir dans la douceur du printemps. Je vous ai promis une balade en barque. La voici.
Voilà un arbre à cormoran.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a deux, trois nids en dessous. Et puis, il y en a un certain nombre qui se perchent dessus et qui attendent gentiment son tour pour aller faire un tour à la pêche. Donc, ils aiment bien se percher en colonie. Quand, les nuits, ils les passent tout ensemble dans un arbre.
D'accord.
Donc, ils font des espèces de grands dortoirs. Donc, ils gardent cette habitude de travailler en commun. En commun, on est plus fort que tout seul. Il y a un héron qui attend son poisson.
Ah oui, comment il pêche?
Un collègue pêcheur. Il pêche là où il est, là, et en train de... Il attend le poisson blanc, gardon, brême, et il essaye d'en attraper un ou deux là où il était posé.
Ça lui suffit pour la journée, ça?
Ça lui suffit pour la journée. Alors, pour lui, personnellement, ça devrait lui suffire. Après, dans très peu de temps, il va avoir des jeunes. Et là, oui, il va falloir travailler un peu plus.
Il va falloir assurer.
D'ailleurs, on s'entend très bien quand il m'arrive, moi, de pêcher des poissons qui ne m'intéressent pas et qui sont soit à remettre sur le bord, style poisson-chat ou des choses comme ça, ou soit des poissons qui sont morts, il y en a quelques-uns qui sont morts, je les mets sur le bord et
oui,
il y a du recyclage assez rapide.
Sur ce marais, c'est des battements d'eau. Sur ce marais, c'est des battements d'ailes. Nous sommes en Loire-Atlantique, un département véritablement d'eau. Oui, parce que c'est avant tout un territoire d'eau. Ah, bien sûr, il y a les bouts de forêt quand même. Mais il y a l'eau salée avec le littoral. Vous avez la Loire, vous avez la Brière, les marais de l'Erdre. Et tout se passe autour de l'eau, avec l'empreinte de l'eau sur ce département. Et là, je vais vous emmener, on va dire, dans une espèce de petite mangrove, avec un peu d'imagination hein, quand même. Un pays qui est fait pour les busards, qui est fait pour les anguilles. Où sommes-nous? Nous sommes à 15 km au nord de Nantes, dans les marais de Mazerolles, sur l'Erdre. Alors, c'est un mini lac de Grandlieu. Hein, vous connaissez le lac de Grandlieu, voilà. Et bien là, c'est un mini lac de Grandlieu. Et je vous propose de grimper dans la barque de Guy Bourlaise, qui est pêcheur professionnel. Lui aussi, c'est un grand naturaliste. Donc, on va vous tendre la main. Vous n'allez pas tomber parce que vous seriez ridicule, et d'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là où on est. Et puis, en fait, donc, on n'est pas parti pour traverser l'Atlantique. Non, juste les 800 hectares du marais de Mazerolles. Et c'est comme le poisson de Guy, c'est tout frais, reportage pêché avant-hier matin, hop, en Loire-Atlantique.
Là,
c'est pas plus mal. Hein, si,
hein. Oui, fait du bien quand ça s'arrête aussi, celui-là.
Bien quand ça
voilà. Alors, puisque nous sommes sur ce marais, Guy Bourlaise, on va rappeler quand même les fonctions du marais. Elles sont extrêmement importantes. C'est vrai que ces lieux-là donc, ont été empreints de maléfices, on les a drainés. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est tous les bienfaits qu'ils apportent à la nature et à l'homme.
Ah, complètement. Ici, il y a eu un projet de sable. Et en fait, le sable s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau potable, l'eau quasiment potable. Il y a une nappe phréatique très importante. Donc, un des services que rendait le marais par rapport à nous humains, c'était l'épuration de l'eau. Et on avait une eau présente dans le sable de qualité exceptionnelle. Et depuis quelques années, depuis maintenant 3-4 ans, on exploite l'eau potable pour les communes limitrophes. Si le marais n'était pas fonctionnel, n'était pas en bon état, on n'aurait pas d'eau potable. L'avantage de cette saison particulière du mois de mars et un petit peu d'avril, c'est qu'on a aussi les migrateurs comme ceux-ci qu'on voit ici. Ce sont des milouins, des canards milouins, fuligules milouins, qui passent une partie de leur hiver ici. Et puis, il y en a un certain nombre qui va remonter dans le nord pour nicher. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-ci, c'est qu'on a à la fois quelques oiseaux qui nous viennent d'Afrique et qui arrivent.
Et comme les spatules.
Comme les spatules ou comme les milans noirs qui vont arriver ou les hirondelles.
3-4 quand même là. Oui.
Et il y a la cohabitation pendant un léger moment entre les hivernants et les estivants. C'est période de mars où ils sont tous ensemble et c'est vraiment très intéressant.
Bien, oui, ben c'est comme les juilletistes et les aoustiens.
Exactement.
Alors là, c'est très joli parce qu'en fait, Guy, on a toutes les... toutes les nuances de vert qui n'est pas encore abouti.
Absolument.
Mais on a l'impression que là, la nature se pomponne et se dit « Mais quel vert vais-je prendre pour être belle ?» voyez. Donc
c'est à peu près ça. Il y a du clair, il y a du plus ou moins foncé. Le vif va pas tarder.
Ah non.
Bon, évidemment, il y a les chênes. Parce qu'il y a des chênes qui sont capables... Ils sont arrivés à s'adapter à quand même
oui, dire,
4, 5 ou 6 mois d'eau.
Et, ouais.
Et bon, là, on en a 3 ici. Mais ils arrivent à s'adapter et ceux-ci vont... D'ailleurs, ils poussent très, 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 très rapidement. Oui. La tête au soleil et les pieds dans l'eau, ça va très vite. Et puis, on voit les aules sont un petit peu en retard aussi. Mais les saules, eux, sont prêts. Ils y vont.
Bah, ça y est.
Ils sont tous en train de verdir.
Enfin, c'est même leur travail de travailler avec l'eau.
Hein, donc, absolument. Hop. Leur demander de passer, ben les non, c'est un buzzard des roseaux.
C'est un buzzard des roseaux, oui.
D'accord.
J'ai quand même vu un petit bilan tout à l'heure, mine de rien.
Ça, c'est possible, tout à fait. Ouais. J'en ai vu un dans le fond, je parierais pas que ça n'était pas un. Mais ça, celui-là, c'est un bilan.
Mais alors, notre cher Milouin, le canard Milouin, bon, donc, il remonte dans le nord pour perfectionner son scandinave, son danois, son norvégien, son suédois. Mais il y en a quand même d'autres qui ont adopté les coutumes locales, qui aiment le muscadet, et ils ont appris le français.
Absolument. Ils se sont dit, on va faire l'économie du voyage. Ici, finalement, c'est pas si mal que ça. Même s'ils sont un petit peu embêtés en fin d'automne, début d'hiver,
ah bah, par la chasse.
Oui. Ça n'empêche que après, ça se passe assez bien pour eux.
Oui.
Ils sont assez au calme et donc ils sont tout à fait capables de rester. Et il y a de plus en plus de milouins qui nichent ici.
Oui.
Actuellement, il y a des spatules qui passent l'hiver chez nous et supportent très bien les conditions.
Alors là, on arrive vraiment au cœur de cette réserve.
Là, on est dans la colonie.
On est dans le dortoir. Là.
Ce qu'on voit d'abord au premier abord, c'est les cormorans.
Ouais.
Ils sont nombreux.
C'est pas l'ami du pêcheur, ça, hein, en général.
Non, mais bon, c'est les mauvais coucheurs qui disent que c'est un oiseau à problème.
Ouais.
C'est un bel oiseau, en plus.
Vous, c'est vrai que vous êtes assez partageur.
Oui, tout à fait, on est partageur. Mais autrement, dans un milieu comme celui-ci, c'est pas dramatique. Et ben voilà, un milan noir.
Ça y est, le voilà, et ouais.
Ça c'est un Africain, celui-là. Et bah c'est le premier qu'on voit arriver. Donc c'est vrai, c'est ça cette période. C'est les Africains arrivent et les Scandinaves vont, ils sont pas encore partis, vont commencer à rentrer chez eux. Les gens du Nord. Ça c'est des colverts de base.
Wow, et qui nous sont passés là sous le museau.
Voilà.
On les effraie absolument pas. Non, ils étaient à 5 mètres là.
Non.
Il y a aussi toute une vie là, qui est sous-marine dont vous allez nous parler. Donc, comment ça se manifeste?
Il faut que l'eau se réchauffe un petit peu avant que les poissons se réveillent à leur tour. Et d'ici le mois d'avril, la physionomie du terrain aura changé. Ce sera très vert.
CO2, mon amour.
Alors Guy, on va quand même parler aussi d'un autre animal qui se faufile bien, c'est quand même l'anguille. Parce
oui.
que là, on est dans un lieu de reproduction assez incroyable pour l'anguille. Alors, on connaît les sueurs de la Gironde, bien sûr. Donc racontez-nous, on connaît cet animal donc, qui part de la mer des Sargasses avec un énorme point d'interrogation qui va remonter, qui va se laisser porter donc, grâce au Gulf Stream.
Voilà.
Et alors, quelle tactique d'ailleurs employer pour éviter l'ennemi lorsque l'on est une toute petite anguille?
La meilleure solution pour éviter la prédation sous-marine et la prédation aérienne, ce qui est le problème quand on traverse, qu'on est un poisson qui traverse l'Atlantique, c'est d'être translucide. Tant qu'elles sont dans l'océan, elles sont translucides.
Alors ce gros voyage va durer pendant un an et demi.
Absolument.
Donc en se laissant porter. Et puis il y a un moment, ils se disent maison, quoi. Enfin,
alors, oui, alors ils sont capables de déceler quelques traces d'eau douce dans un grand volume d'eau. Et ça déclenche la natation, on va dire. Et là, à partir de là, elles deviennent un poisson. On peut dire ça comme ça. Avant, on n'était qu'une larve. Et là, elles se déplacent et essayent de trouver la source de cette eau douce.
Bien sûr.
Elles sont nées dans les sargasses. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'elles viennent en eau douce pour grossir.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc, elles vont sentir l'estuaire de la Loire.
Oui.
Là, elles vont remonter.
Oui.
Il y a beaucoup d'obstacles à ce niveau-là ou bien...
Il y a pas mal d'obstacles. Tous les marais sont fermés, éclusés. Ici, l'Erdre est éclusé aussi.
Ensuite, donc, cette anguille va grossir. Pendant quoi ? 10 ans, 15 ans peut-être ?
Oui, c'est ça, 10 à 15 ans. Et puis il y a un
moment... Elle va changer quand même. Là.
Alors elle va muter. Elle va muter. La peau va épaissir de façon considérable. Elles ont une couleur argentée. Elles sont sombres sur le dos et argentées sur le ventre. Il y a une ligne de capteur qui va s'installer sur les deux bords du corps pour pouvoir naviguer en eau de mer. Les yeux vont avoir un système de protection qui va leur permettre de continuer à voir dans beaucoup d'eau et très peu de lumière et une grosse pression parce qu'elles naviguent en profondeur.
Donc des lentilles spécialisées.
Voilà, des lentilles spécialisées qui leur permettront de traverser l'Atlantique et de s'y retrouver parce que ce n'est pas évident en partant de Saint-Nazaire d'aller dans le golfe du Mexique.
Et pourtant, le GPS est là, quoi, intégré.
Oui, bah, elles l'ont intégré.
Donc c'est ça en fait, la vie de l'anguille qui va repartir et puis après donc, il va pondre de nouveau dans le golfe du Mexique, dans cette mer des Sargasses. Et puis bah, après, bah, on meurt quoi, une fois qu'on a fait le grand voyage.
Oui, quoi. Parce qu'elles ont pris beaucoup de nourriture, elles se sont bien engraissées avant de partir. Et elles ne mangeront pas entre le moment où elles sont parties et le moment où elles vont arriver.
D'accord.
Et arrivées au bout, elles sont juste capables de se reproduire et puis ensuite de mourir.
Spring, donc ça, on le rappelle, arrivée du printemps, ici dans ce marais de Mazerolles avec vous, Guy, des chatons partout, du vert tendre, et puis donc cette pouponnière, et là on voit quand même un certain nombre de nids, là c'est fait, quoi. Alors là c'est quand même, touche pas à mon territoire. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous épate le plus, vous tous les ans, vous avez fait une trentaine d'années, vous ici déjà, donc 30 printemps.
Bah, c'est la surprise permanente en fait. Il y a une époque, ici, il n'y avait pas un seul héron qui nichait. Il n'y avait pas un seul cormoran, il n'y avait personne ne nichait.
Alors là, nous sommes fin mars, donc toute cette eau va s'évacuer au fur et à mesure.
Voilà.
Ça va partir en combien de temps? Ce sera quoi?
En deux mois, à peu près. On va retrouver des prés. Ben, en voilà une spatule, encore une africaine. Voilà, spatule blanche. Elle nous arrive directement depuis une dizaine de jours, elle est là. Donc elle est déjà en train d'installer son nid.
S'est arrêté au printemps donc avec ce reportage colorié par Hélène Biziot. Et merci donc à Guy Bourlaise sur ce département de Loire-Atlantique avec ces marais de Mazerolles. Mais qu'est-ce qui nous reste? Ah bah si, on va aller en Bretagne et puis en Corse, pas mal, mais juste après, les scarabées. Sûr qu'il est là, le soleil. On va aller le retrouver avec vous, François de Beaulieu, puisque vous êtes le secrétaire général de Bretagne Vivante. On va aller dans le Finistère, cette fin de la terre, mais où tout commence. Bonjour, François de Beaulieu.
Bonjour, Denis.
Alors, François de Beaulieu, vous êtes à quel endroit? Je sais que vous êtes ce qu'on appelle la montagne, mais c'est pas exactement la Haute-Maurienne. Hein, c'est...
Oui, c'est les monts d'Arrée, mais c'est quand même le point le plus haut de Bretagne.
Ouais.
Et quand on en parle, à côté, on dit la montagne ou le Méné.
380 mètres d'altitude. Alors, qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Parce que je sais que là vous y êtes, vous êtes un peu à l'abri du vent. Et comment se traduit le printemps là-haut?
Ben, sous les yeux, c'est le plus grand paysage de landes de toute la Bretagne, le dernier grand espace de landes qui nous reste. Et je te dirais, je sais pas comment c'est la Maurienne, mais là, c'est blanc. C'est blanc parce qu'il y a encore un peu partout les grandes étendues de Moligny fanées. Et les pousses vertes, il faut regarder de très près pour les voir. De loin, c'est plutôt blanc. Mais en même temps, bon, on voit bien, il y a les touffes d'ajoncs qui ont fleuri sous la neige quand il y en a. On sait qu'on a des ajoncs en fleurs toute l'année. Mais là, au printemps, quand il y a un rayon de soleil qui vient taper un peu entre les pierres sur une touffe d'ajoncs, c'est là que ça sent bon et qu'on se dit c'est le printemps avec cette odeur-là.
Est-ce que les moutons sont déjà sortis ?
Non, ils ne sont pas encore dehors. Et en plus, là, si tu veux, ce qui est sensible, c'est qu'il a plu cet hiver. Il a énormément plu et tout est gorgé d'eau. C'est vraiment une impression assez, assez terrible parce qu'on a pris de l'eau pour 10 ans d'un coup.
Oui.
Mais les courlis sont revenus et ça, c'est le signe le plus heureux du printemps qu'on puisse avoir. Ça fait une quinzaine de jours qu'on entend les courlis chanter. Il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a plus qu'une vingtaine de coupes pour tous les monts d'Arrée. C'est les derniers de la Bretagne, mais ils sont encore là, ils reviennent tous les ans. Et c'est un bonheur formidable de les entendre.
Alors François de Beaulieu, on va se tourner maintenant parce que pas très loin... on va poser le regard à 35 km de là et on arrive sur la baie de Morlaix que vous connaissez. Vous la voyez là depuis donc, les monts d'Arrée.
À vol de goéland, ça a l'air tout près et on voit bien les îlots dans la baie où ça scintille au loin et il y a cet endroit merveilleux qu'est la baie de Morlaix avec la réserve où l'équipe de Bretagne vivante, elle sait que c'est le printemps parce qu'elle a dû se mettre au travail. Et là aussi, on peut dire, l'hiver est passé avec des tempêtes terribles. Il y a des tas de panneaux tordus cette année, d'autres arrachés, il faut tout remettre en état.
Comment on sait véritablement que c'est le printemps ? Vous, en tant qu'être humain, comment vous le percevez, François de Beaulieu ?
C'est le printemps... parce que j'ai vu les jonquilles en me baladant dans les prairies au bord des rivières, parce que j'ai entendu le courlis, et parce que un peu partout, on entend des chants, on sent des choses qui ont l'air heureuses.
C'est très joli, ça. Des choses qui ont l'air heureuses. François de Beaulieu, j'ai aussi signalé que vous avez écrit un dictionnaire de la nature en Bretagne aux éditions Skolbraise. Donc vraiment, c'est formidable. C'est une bible qui est absolument complète. Donc ce dictionnaire de la nature en Bretagne. Nous poursuivons et terminons cette ronde de printemps. Alors si je vous dis que nous allons dans le nord de la France, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison car on va rejoindre Jean-Marie Dominici qui est le garde de cette superbe réserve de Scandola. On n'est pas loin de Calvi pour faire très simple, entre Porto et Calvi dans le parc naturel régional de Corse. Donc bonjour à vous, couleur du printemps Jean-Marie Dominici.
Bonjour Denis. C'est à peu près ma figurée pour dire le printemps, puisqu'on a un petit coup de froid avec de la neige sur les montagnes autour de la réserve. Mais c'est vrai que les prémices du printemps sont là, et avec la poussée de la flore, avec la préparation à l'éclosion des fleurs, c'est-à-dire toutes les espèces endémiques sur la frange littorale, comme Armeria soleroli, Rhodium corsicum, tout ça. Donc tout ça se prépare, c'est vraiment en instance de floraison. Et bien sûr, au niveau de la faune, ce sont les oiseaux marins qui sont les plus proches de nous, puisque vraiment à la limite terre-mer.
Oui.
Et lorsqu'on passe en bateau, on peut les apercevoir, tel le cormoran huppé de Méditerranée, le balbuzard pêcheur qui fait son retour après un hivernage beaucoup plus au sud de la Sardaigne et en Afrique du Nord. Donc les premiers arrivés pour se reproduire en Corse sont là. Les paranuptiales vont commencer aussi. Donc... C'est vraiment l'entrée dans le printemps.
Jean-Marie Dominici, cette réserve de Scandola, racontez-nous quand même aussi un peu son origine. On est sur une origine volcanique.
Bien sûr, c'est un complexe volcanique qui date de la fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, 250 millions d'années, avec ses roches pourpres, rosées, avec ses falaises abruptes qui tombent dans la mer, et la mer d'une couleur vraiment exceptionnelle. Ces mélanges de couleurs, ces reflets de l'ocre, des ocres et des rouges, des rosés de la roche font que vraiment entre le ciel bleu, les roches roses, la mer, je veux dire, et le contraste de la végétation verte par-dessus, c'est un contraste de couleurs qui est fabuleux. Quoi.
Alors je sais que vous n'êtes pas loin de votre bateau, la Jean-Marie Dominici, donc au cœur de cette réserve. Parlez-nous aussi quand même un peu des fonds marins. Comment ça se passe au printemps? Là aussi, on a quand même toute une exubérance, toute une végétation qui se remet en mouvement.
Mais oui, c'est aussi l'essaimage et la production maximum de printemps du plancton, puisque nous sommes sur la frange littorale où le plateau continental est le plus étroit et où on a des profondeurs vraiment abruptes à moins d'un mille des côtes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fonds de 1000-1500 mètres à moins d'un mille des côtes. Donc ça, c'est l'arrivée du plancton pour cette période-là. Bien sûr, les mammifères marins qui sont inféodés à la ressource alimentaire, comme les cétacés et autres, les dauphins, comme on voit assez souvent aussi en ce moment, puisque la mer est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Et bien sûr, au niveau des poissons, après l'hiver, la température qui va recommencer à monter, ça va aussi être le signal pour la reproduction dès l'élévation de la température.
Alors, comment se portent les mérous dans votre réserve?
Sur la partie intégrale, il y a un effet réserve, oui, avec une abondance, un nombre assez élevé de ces individus de cette espèce qui sont présents, et surtout des espèces qui ont une taille remarquable, puisqu'ils ont un âge canonique, si j'ose dire, pratiquement l'âge de la réserve, plus de 30 ans. Et donc, vous imaginez ce que cela peut représenter en termes de reproduction, puisque chez les poissons, il faut savoir que plus le poisson est vieux, plus il y a une faculté de reproduction importante. Donc, l'effet réserve, la bonification de la ressource, de la faune, fait que nous avons des espèces anciennes, assez vieilles, qui ont une faculté de reproduction très importante. Et donc, la réserve intégrale a une faculté d'essaimage du recrutement des larves, des œufs et des petits juvéniles, qui fait qu'il y a un essaimage tout autour de la réserve pour produire justement de la ressource et réensemencer un peu la ressource halieutique sur un rayon assez important autour de la réserve. Voilà. Donc ici, les mérous ont un comportement tout à fait naturel. C'est-à-dire que hors réserve, on peut voir des mérous qui fuient. Il y a une distance de sécurité, une distance de fuite. Et plus on rentre dans les zones protégées où il y a moins d'incidence par rapport à une certaine prédation, plus le poisson a pris confiance et plus il se laisse approcher. Il a un comportement en toute confiance avec l'homme.
À quels signaux savez-vous, Jean-Marie de Médici, que c'est véritablement le printemps chez vous, en Balagne, en Corse et en particulier dans cette réserve?
Ben, la première des choses, c'est les jours qui rallongent, la luminosité qui devient de plus en plus puissante, donc de plus en plus forte, et la couleur de la végétation, c'est-à-dire que vous avez la sève qui est en pleine montée dans tous les végétaux, qui fait que les bourgeons gonflent, les fleurs arrivent, et ça donne une couleur tout à fait différente, la couleur de la vie. Le printemps, c'est la vie. L'automne, c'est la vie qui est en sommeil, et le printemps, c'est la vie qui revient en pleine force.
Merci Jean-Marie Dominici. Si vous souhaitez participer à cette ronde de printemps, n'hésitez pas. 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. On va pouvoir le distiller dans les semaines qui viennent. Franceinter.fr, c'est le site. Là aussi, vous pouvez converser allègrement sans aucun problème. Les sites Anne Gouzon les nourrit. Il y a d'ailleurs aussi son site sur l'environnement qui est très bien fait. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, sans oublier de remercier Virginie Leduo, Hélène Biziot qui a réalisé cette émission très bien. Alexandre Chêne et Maximin Grand nous accompagnaient à la technique. Et puis dimanche, ce sera Vivre avec les bêtes, là aussi, avec Alain Bougrain du Bourg. Un peu de pub? Allez.